Bifurcation.
Bifurcation, épisode 5. Mais c'est le printemps, là ? Ce mois-ci, de nombreuses retrouvailles. Valérian est retourné une semaine chez Rémi, puis nous avons retrouvé notre promo pour une semaine en présentiel à l'ESA. Et enfin, nous avons repris la route vers la ferme Sapousse, en Essonne.
Je suis effectivement retourné chez Rémi une semaine. À cette période, les arbres greffés sont plantés en plein champ et beaucoup de semis d'arbres ont poussé. C'est l'occasion de voir que le semis que nous avons effectué la dernière fois avec Flavie n'a pas du tout fonctionné. Le trèfle n'a pas repris par exemple.
Oups !
Je constate que Rémi a investi dans un semoir mécanique. Ça ressemble à une pyramide inversée qui fait office d'entonnoir. La partie basse est composée d'une hélice qui projette les graines jusqu'à 7 mètres de distance.
Ouais, bon, pas mal. On peut dire que ça fait mieux que nous.
Il y a cette semaine avec moi, Gaël, en stage BPREA également, à l'école du Frêne, tout près d'Angers. Une école historique de l'horticulture, paraît-il. Avec elle, nous avons fait pas mal de repiquage de jeunes plants d'arbustes d'essence locale. Pour ça, nous avons commencé par remplir des pots avec du terreau.
Ah oui, la dernière fois, on avait mis en place une installation avec un mélangeur à terreau. Un tapis roulant qui mène ce terreau jusqu'à une machine qui va ensuite le distribuer dans des pots ou des plaques de culture.
Voilà, on a donc commencé par remplir des plaques. Les arbustes se présentent en touffe, issus de semis que Rémi a fait dans des caisses. On va donc séparer chaque plantule de la touffe et la mettre individuellement dans une alvéole pleine de terreau. C'est un geste répétitif mais que j'ai bien aimé parce que assez minutieux et précis.
En milieu de mois, nous sommes retournés à Angers pour notre deuxième semaine de regroupement de promos. C'est l'occasion de vous faire rencontrer quelques-uns de nos camarades. On commence par Claire, avec qui nous avons été en colloque pour la semaine.
Tour d'horizon, ce soir on est avec Claire, qui est en élevage. Claire, est-ce que je peux te laisser te présenter dans un premier temps ?
Oui. Alors, bonjour à tous. Donc Claire, j'ai 30 ans. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Je suis du coup en reconversion professionnelle. J'étais dans le transport maritime juste avant. J'ai fait une école de commerce au début déjà, c'était pas vraiment ma voie. Je fais beaucoup de sport nature, du parapente, de l'escalade. Je suis très tournée vers la nature. J'habite quand même entre Marseille et Aix-en-Provence, bon, dans un petit village, mais j'ai quand même beaucoup vécu en milieu urbain.
Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais un BPREA cette année et est-ce que tu peux présenter un petit peu le projet que tu as en tête ?
Oui, alors le BPREA, donc, c'est un changement de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en reconversion professionnelle. J'avais eu l'opportunité de travailler pour financer un petit voyage sur Compostelle dans un élevage caprin chez une amie d'une amie. Et ça m'avait beaucoup plu, malgré le fait que ce soit des chefs qui sortent pas beaucoup. Je m'en rendais peut-être pas trop compte à ce moment-là. C'était assez gros comme élevage. Mais bon, j'étais dans autre chose. J'étais en sortie de diplôme d'école de commerce. Et du coup, j'étais à fond dans ma voie. J'avais pas... Voilà, j'imaginais pas du tout faire ça de ma vie. Et en fait, j'y reviens quelques années plus tard, après avoir fait du woofing et des stages, enfin plutôt des woofing, et maintenant dans le cadre du BPREA des stages. Ça me plaît beaucoup, et du coup, mon projet, c'est l'élevage caprin à la base avec de la transformation, donc pour transformer du lait en fromage, ou en yaourt, ou en faisselle. Et dans l'idéal, j'avais aussi envie d'élever des chèvres angora pour la production de mohair. Maintenant, bon, bah, déjà après quelques mois de BPREA, je me rends compte que faire du fromage toute seule, c'est très difficile. Parce que faire la traite, la transformation et la vente, souvent les marchés qui se font le matin, et du coup, faire la transformation et la vente, c'est déjà une seule personne, c'est très compliqué. On ne peut pas être à deux lieux différents en même temps. Et en faisant des stages dans le cadre de mon BPREA, ça m'aide aussi à voir plus clair. Et notamment mon dernier stage en élevage angora qui m'a beaucoup plu dans les Pyrénées, donc là où j'aimerais m'installer. dans la vallée que j'adore. Donc voilà, je réfléchis beaucoup là-dessus. J'ai pas envie de vivre vraiment que pour mes chèvres, ce que je vois beaucoup en élevage laitier. Ça me fait peur, donc d'avoir un rythme, quand même une qualité de vie personnelle, je sais que j'en ai besoin et j'ai pas envie de me mettre dans le rouge tout de suite.
Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que serait un élevage pour de la laine et en l'occurrence pour de la mohair?
Ouais. Eh ben là, du coup, on avait 74 chèvres Angora, 30 bébés cette année. Il y avait deux mises bas à faire encore quand j'y étais. J'y ai passé 3 semaines. Donc Céline, la gérante, a repris cette ferme il y a 7 ans. Elle a 37 ans. Un élevage d'Angora, normalement, on passe par la Sika Mohair, qui est une sorte de coopérative. Donc on récupère que de la laine, pas forcément que de nos chèvres, alors qu'elle, là, elle arrive encore à continuer et à essayer d'avoir toutes ses parties prenantes, son lavage, son séchage, son cardage. C'est elle qui gère tout, mais par des fournisseurs quand même extérieurs, ça crée des emplois. C'est de plus en plus difficile, mais voilà, elle envoie sa laine une fois tondue, une fois triée, au lavage. Ensuite, il y aura une autre étape, ce sera le séchage, le cardage, et tout se fait dans des endroits différents. Elle essaye de le faire le plus localement possible. Et du coup, elle reçoit de la laine pas forcément déjà teintée, ou déjà teintée, synthétiquement ou en teinture végétale. Par exemple, une peau d'avocat, ça va faire du rose. avec du bois de champêtre, ça va faire du jaune marron. Et voilà, et elle fait 2 visites de sa ferme par semaine. Elle fait 70% de son chiffre d'affaires en boutique. Et sinon, elle fait 2 marchés par semaine l'été. Un petit peu, voilà, son business model.
Et du coup, c'est quelque chose dans lequel tu te projetterais éventuellement, toi, à l'avenir ?
Oui, parce qu'elle arrive à se dégager du temps libre. Là, quand j'étais en stage, elle est partie une semaine en vacances. Elle arrive à avoir une vie de famille. Elle est ancienne bergère d'estive. Et voilà, d'éduquer ses enfants en étant dans une cabane en haut de la montagne, c'était pas vraiment le plan. Et elle voulait faire du fromage à la base, comme moi. Donc ça fait des grosses coïncidences et on s'est super bien entendu aussi. Et c'est aussi ce qui fait une bonne expérience. Et donc, il s'agissait de la ferme Homoer d'Olon, en Pyrénées, à Olon, un petit village à 1200 mètres d'altitude. Et vous pouvez regarder, d'ailleurs, le super site internet.
Trop bien. Bah, merci beaucoup. On a hâte de voir la suite de ton projet.
Et moi, j'ai hâte de vous inviter à la ferme.
Et pour finir, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle à partager ?
Oui, on en a parlé hier soir, du coup, et c'est le livre « Et vous passerez comme des vents fous » sur ce qui donne un peu un aperçu d'une bergère en estive, ce qui est mon objectif pour l'année prochaine, avec ma chienne, qui est aussi en formation de conduite. Et j'aimerais partager ça avec mon chien, et je me rends compte que dans l'élevage Angora, ce qui me plaisait le plus, c'était pas forcément cette matière noble à vendre, de nos chèvres, c'était plus conduire un troupeau dans la montagne, aller au pré, à utiliser mon chien et avoir une symbiose et pouvoir se comprendre et voilà, guider un troupeau, passer du temps à la montagne et être dans la nature vraiment, malgré la prédation autour, d'être dans un super coin et d'être au calme.
Merci.
On continue notre tour de promo avec Valentin, qui fait l'option horticulture avec moi.
Salut Valentin, du coup tu es dans notre promo, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu fais aussi un BPREA ?
Bonjour, donc Valentin, j'ai 28 ans, je suis originaire d'Angers. En parallèle du BPREA, moi je travaille dans une association depuis 3 ans et demi qui s'appelle la Fresque du Climat. La fresque du climat, c'est une association dont l'objectif est de sensibiliser aux causes et aux conséquences du changement climatique via un atelier qui dure 3h30, qu'on propose à tout type de public, que ce soit des experts ou des débutants. On intervient dans des entreprises, dans des organisations institutionnelles, le secteur public, les écoles. Aujourd'hui, l'association a réussi à sensibiliser plus de 1,6 million de personnes aux causes et aux conséquences du changement climatique. Et il y a plus de 70 000 personnes qui sont formées à animer des fresques, que ce soit en bénévole, ça peut être également leur activité économique ou ça peut être également des salariés d'organisations qui sont formés. Donc c'est une association que j'aime beaucoup, je suis très investie, je rencontre plein de gens qui sont hyper engagés, hyper connaisseurs du sujet. Et moi, en réfléchissant à ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit qu'en fait j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus concret et aussi peut-être de plus militant. Et donc ça fait plusieurs années que j'étais intéressée par l'agriculture en général. Et donc, je me suis dit que j'allais me lancer dans le BPREA. Je fais le BPREA en parallèle de mon travail, ce qui me permet de ne pas utiliser mes droits au chômage. Et c'est un peu une année intense pour moi, mais ça me permet de découvrir le métier sans trop m'engager. Et je l'ai fait à Angers parce que les Alpes proposaient donc en distanciel et ça me permet de garder mon travail.
Et si tu devais t'installer plus tard dans le milieu agricole en tant que professionnel, est-ce que tu peux nous dire le projet que tu as en tête ?
Carrément. Bah, déjà, pour commencer, moi, je me suis inscrit au BPRA avec une idée, mais elle est pas fixe et je pense qu'elle va beaucoup évoluer au cours de la formation avec les rencontres que je vais faire et je pense qu'elle a déjà un peu évolué. Mon idée de base, c'était de faire du maraîchage vivrier pour faire vivre un lieu collectif avec une vingtaine de personnes. En parallèle, avoir une pépinière d'arbres fruitiers et potentiellement à côté une activité de formation ou de conseil pour le grand public. Et donc en fait ces personnes-là viendraient sur le lieu sur lequel j'habiterais pour venir faire des formations et donc forcément devraient les nourrir, donc ça serait les légumes qui seraient produits sur le jardin qui permettraient de nourrir tout ce monde-là, voilà, dans un esprit collaboratif.
Du coup, tu as une plutôt bonne connaissance de l'impact de l'homme sur l'environnement, j'imagine que c'est aussi ça un petit peu qui t'a guidé vers le milieu agricole.
C'est vrai que via la fresque du climat, on comprend qu'en fait dans le problème climatique, déjà l'agriculture est vraiment centrale et c'est à la fois un secteur qui pose problème par rapport au changement climatique, mais également quand on s'intéresse à l'effondrement de la biodiversité, on voit que l'agriculture a une place centrale également sur le sujet. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller vers l'agriculture, c'est qu'en fait c'est à la fois un secteur aujourd'hui qui pose problème mais qui peut vraiment apporter des solutions. En plus d'avoir un impact positif sur la biodiversité et le climat, je pense que l'alimentation a vraiment une place centrale dans toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, l'accès à l'alimentation, les problèmes des maladies. Donc vraiment pour moi l'alimentation et l'agriculture, c'est vraiment le point de convergence de beaucoup de problématiques qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que moi, ça m'a donné envie de m'intéresser à ça, notamment par rapport à l'effondrement de la biodiversité. Dans les causes de celle-ci, on voit qu'il y a le changement climatique, mais également il y a le changement des surfaces agricoles. Et donc en fait, nous, en tant que futurs maraîchers ou arboriculteurs, on peut vraiment avoir un impact en replantant des haies, en utilisant des techniques agricoles qui ne détruisent pas les sols.
Et du coup, tu nous as évoqué l'idée d'une ferme ou d'une production pour un collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
C'est vrai que moi, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu intégrer le BPRA. C'est d'abord de vouloir vivre en collectif. Et donc, je me suis questionné sur qu'est-ce que je pouvais faire dans le cadre où un jour je rejoindrais ou créerais une communauté d'une dizaine de personnes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et donc, c'est pour ça que j'ai intégré le BPREA et que je me suis intéressé à l'agriculture, parce que ça me rendait vraiment heureux de passer mon temps dehors. Et en parallèle, je pense que le collectif, ça se prépare, donc le temps de la formation va me laisser le temps aussi de me former sur comment on évolue dans un collectif. Je pense que c'est important d'apprendre des techniques. Souvent, quand on visite des écolieux ou des fermes collectives, on voit bien qu'ils parlent toujours du putain de facteur humain. C'est souvent ça le problème. On peut avoir un lieu magnifique, ça peut très bien se passer au niveau économique, mais il y a souvent des problématiques entre des individualités. Et donc, moi, en parallèle de la formation BPRA, je pense que j'ai un travail aussi à faire pour me former à la communication non violente, à ma posture dans des groupes. Et je pense que c'est clé pour toute personne qui souhaite créer un collectif ou en rejoindre un, c'est comment on fait pour bien communiquer, parce que dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va exploser, que ce soit avec le stress, etc. On ne peut pas avoir de non-dit, je pense, si on vit en collectif et surtout s'il y a du stress.
Et du coup, est-ce que tu as une recommandation à nous partager sur ce sujet ou sur un autre ?
Pour peut-être rester dans le collectif, moi, c'est vrai que je pense à des formations qui permettent d'apprendre à interagir en groupe et à travailler ensemble. Donc, il y a l'université du Nou qu'on me recommande régulièrement, mais moi, je n'ai pas encore participé. Et par contre, je pense à Fertile qui organise de nombreuses formations. Moi, j'ai fait la PACO, qui veut dire la posture apprenante de coopération. C'est une formation qui dure une semaine et on est dans un écolieu. Et en fait, on va chercher à créer un cadre qui nous permette de bien fonctionner en collectif. Ça va nous permettre de faire l'introspection sur comment on interagit en groupe. Et donc, c'est vraiment, une formation intéressante pour des personnes qui veulent ensuite créer un projet collectif.
Et du coup, est-ce que tu peux nous partager quelques pratiques de communication non violente ou depuis la formation que tu as retenues et que tu essayes, en tout cas, de mettre en place ?
La première, pour moi, c'est pas vraiment de la communication non violente, mais c'est vraiment comment on facilite les interactions entre plusieurs personnes dans un groupe. Ça va être les gestes de facilitation que c'est vrai que j'utilise avec mes colocataires et dans mon association. Donc ça peut être des gestes pour montrer qu'on est d'accord avec quelqu'un qui parle sans l'interrompre, pour prendre la parole et que à la fois tout le monde puisse participer. Il y a également aussi des gestes pour demander le silence et d'une manière hyper efficace plutôt que de crier ou autre. Donc il y a plein de gestes comme ça qui sont hyper efficaces. Et plutôt donc là en communication non violente, c'est apprendre à parler de soi, de ses besoins, plutôt que de faire des reproches, tu n'as pas fait ça, etc. Et c'est une technique qui s'appelle OSBD, donc c'est observation. Après on parle après l'observation des sentiments que ça a provoqué chez nous et du besoin qu'on a par rapport à cette situation. Et ensuite, on fait une demande. Donc, c'est observation, sentiment, besoin, demande. Et c'est plutôt efficace, je trouve, pour demander des choses à quelqu'un, plutôt qu'il prenne comme une reproche, c'est hyper efficace. Et aussi, moi, je trouve à l'inverse, quand on me fait une demande comme ça, je le prends moins personnellement. Donc, ça peut être hyper efficace sur une ferme, dans un lieu collectif, ce genre de technique.
Trop bien. Bah, merci Valentin. On a hâte de voir la suite de tes différents projets.
Et enfin, on vous fait rencontrer Eline qui fait l'option arboriculture et qui a déjà un terrain pour son projet.
Salut Eline. Toi, tu es en BPREA en arboriculture. Donc, on est dans la même section. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour Valérian, avec plaisir. Je m'appelle Eline, j'ai un peu plus de 50 ans, je ne dirais pas combien de plus de 50. Et je suis belge, je vis à Bruxelles, je navette entre Bruxelles et Paris et je travaille dans le cinéma en tant que directrice de la photographie depuis beaucoup d'années déjà. Je suis mère de deux grands-enfants. Très important dans mon parcours, qui ont 23 et 24 ans aujourd'hui.
Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire un BPREA et pourquoi aussi l'option arboriculture ?
Alors, ce n'est pas vraiment une formation que j'ai choisie au départ. En fait, j'ai choisi un projet que j'ai élaboré et en fonction du projet que je me suis élaboré, j'ai cherché la formation. Par la suite, sur le projet... et les raisons du changement peut-être de mon orientation. J'ai un métier qui est super passionnant, qui me passionne toujours, que j'adore faire. Donc il n'y a absolument pas ni de burn-out, ni de ras-de-bol, ni rien de ce type-là. Je trouve que les vies sont très courtes et que j'aurais bien envie d'en avoir 10. Après, déjà là, j'en m'en fais 3, la famille en 1, mon métier en 2 et un nouveau métier en 3. Et surtout, je cherchais un nouveau métier, donc c'est vraiment presque une démarche à limite intellectuelle, à retrouver ce qui m'anime. Et je me suis dit, dans l'apprentissage du végétal, il n'y avait pas de limite. et qu'avec ce nouveau métier, j'allais pouvoir apprendre jusqu'au bout de ma vie, et que c'est ça qui me passionnait. Parce que autant comme le métier que je fais actuel, il est très diversifié, mais la marge d'apprentissage est devenue petite, parce que je le fais très bien, et depuis très longtemps déjà.
Est-ce que tu peux détailler ton projet ?
Alors, moi, je suis dans un projet que je souhaite collectif à terme. J'ai fait le truc un tout petit peu à l'envers parce que j'ai cherché avec ma sœur, qui est déjà, elle, ingénieure horticole, qui travaille au maraîchage indépendante et comme professeure en horticulture, qui m'accompagne. Mais on n'a pas constitué le collectif d'abord. J'ai commencé à chercher des terres pour faire un projet où on peut faire un petit collectif agricole qui accueille des résidences artistiques, parce que j'avais envie de garder un pied dans mon milieu, si on peut dire ça. Et donc je me suis dit, je vais chercher le lieu, et en fonction du lieu, on va constituer le collectif et pas l'envers, parce que je me suis dit, c'est tellement difficile à trouver des terres que faire un collectif et devoir éjecter quelqu'un parce qu'il n'y a pas place pour 8 personnes, mais que pour 5, ou au contraire, trouver des super opportunités et que... Au final, pour la personne qui voulait faire meunier et les céréales, ben, les terres ne s'y prêtent pas. Ça allait être extrêmement compliqué. Et donc, j'ai commencé à chercher en parallèle des terres. J'ai élaboré mon projet en parallèle et j'ai cherché la formation en parallèle. Donc, j'ai mis tout un peu dans le même wagon. Et donc, l'endroit que nous avons trouvé, il se prête à ce qu'on travaille maintenant, un collectif de 3 agriculteurs. Alors, idéalement, on associerait arboriculture fruitière, petits fruits, avec une toute petite exploitation qui, toute seule, ne pourra pas tenir d'élevage ovin et poules pondeuses. Et dans ce que je viserais, ça que je trouverais chouette, c'est que pour transiter d'un métier à l'autre, de pouvoir faire pour ces 3 personnes ensemble un 2/3 temps, par exemple, en agriculture, pour sécuriser un peu la transition. Ça, c'est pour la partie agricole. Et à côté de ça, on a créé une association, loi 1901, qui s'occupe d'installations de pré-vergers qui ne vont pas être productifs d'une manière économiquement vivable. Donc c'est pour ça qu'on la gère en collectif, donc à but non lucratif. Et cette même association travaillera sur l'accueil des résidences artistiques. Donc je fais partie des deux pôles, évidemment. Et pour ça, on transforme une ancienne ferme bovin-viande en ferme fruitière.
Génial, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter ?
En fait, le choix de me retourner vers l'agriculture, je pense que ça vient du fait que je suis née à la campagne. Alors, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais voilà, on vivait quand même très proche de ferme. Et j'ai passé toute mon enfance à la campagne, que j'ai eu besoin d'un vrai lien avec la nature et que j'ai horreur des maisons secondaires. Je pense que c'est un peu la mort de beaucoup d'endroits. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas aller à la campagne pour rien faire et juste continuer à travailler en ville et naveter. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que vraiment qui me passionne ? Et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée vers l'arboriculture fruitière. Et la transformation, pardon, j'ai oublié de dire qu'on fera la transformation de petits fruits sur place et qu'on s'intéresse à la transformation, tout particulièrement au séchage. C'est-à-dire avec le moins... On fera aussi de la confiture et des gelées, mais... On voudrait développer tout un système de séchage le plus naturel possible. C'est évidemment pas possible à l'endroit où je suis. Je suis dans le Morvan. Mais voilà, c'est un des grands axes, c'est de la conservation par séchage. Et donc, dans l'idée de réellement me sentir utile et laisser quelque chose derrière, parce que finalement, en tant qu'agricultrice, je n'ai plus tant d'années que ça. Mais moi, je suis passionnée par la construction ou l'invention même du système, c'est-à-dire laisser à mon départ un outil de production bien pensé et utile à une jeune génération, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc il y a en même temps le côté créatif que je trouve dans cette phase-ci, c'est-à-dire comment faire de ce petit lieu quelque chose qui fonctionne économiquement et humainement. J'ai cherché une surface pas gigantesque. En fait, au départ, je m'étais dit qu'il faudrait 2, 3, 4 hectares pour le petit fruit. Mais on avait très envie d'associer différents types de production pour créer un système qui marche ensemble sur les intrants aussi, c'est-à-dire tout ce qui est engrais, avoir des animaux sur place, sur le... Toute la, comment dire, la stratégie de... Comment on apprend en cours encore la lutte biologique. La lutte avec les auxiliaires. Les animaux me semblaient indispensables. Et donc, il se fait que j'ai fait les démarches pour une ferme qui était assez grande, qui faisait 40 hectares, qu'on a rencontré la SAFER, parce que c'était un lieu qui était compliqué d'un point de vue juridique, et que ça n'a pas marché. Et donc, j'ai trouvé une... Nous avons trouvé une ferme dans le même village et il se fait qu'elle est grande, elle fait 46 hectares, mais avec beaucoup de surfaces qui ne sont pas utilisables ou peu utilisables parce qu'il y a des zones humides, il y a des prairies qui sont des prairies permanentes un peu sèches, donc proches de la roche. Donc en fait, c'est beaucoup de surfaces qui nous intéressent pour la biodiversité, évidemment. Mais voilà, ça, c'est plus d'entretien que réellement de surface cultivable, en fait. En cultivable, bon, on a ce qu'il faut, par contre. Voilà.
Et est-ce que tu aurais une recommandation ?
Alors, je vais vous recommander deux romans d'une amie, que j'ai, en fait, qu'une amie d'ancienne date, je peux dire. Nous avons fait nos études ensemble à Bruxelles, dans l'école de cinéma. Et donc, c'est deux romans d'une autrice qui s'appelle Lola Gruber. Le premier s'appelle « Trois concerts », qui est un roman extrêmement musical, super bien écrit. On entend, quand je lis ce roman, j'entends sa voix et sa finesse et son humour à chaque phrase. Et elle vient de sortir un nouveau livre que je n'ai pas encore lu, mais que je vous conseille donc, qui s'appelle « Orne, venez la nuit ».
Lors de notre semaine de cours, le programme a été dense, un peu comme d'hab en fait. On a par exemple eu un cours d'agroécosystème. Alors pour vous donner la définition d'un agroécosystème, il faut déjà définir un écosystème.
En fait, c'est un ensemble composé d'êtres vivants et d'éléments du milieu non vivant, comme le vent ou le soleil par exemple, qui ont des interactions entre eux. Par exemple, le soleil va réchauffer le sol, qui va lui-même permettre à une graine de germer et de se développer en plantes.
Un agroécosystème, c'est tout simplement un écosystème, mais qui est modifié par l'homme, dans un but de produire. Des légumes, par exemple. L'objectif de notre cours a ainsi été de comprendre les principales interactions d'un agroécosystème et de réussir à les représenter sous forme de schéma. C'est un exercice que l'on va faire pour représenter le fonctionnement général de la ferme dans lequel on fait nos stages principaux. Flavie pour la ferme Ça pousse, de Sylvie et Florent, et moi pour la lutte des fruits avec Yann.
On a aussi eu un cours de diagnostic financier et de diagnostic de durabilité d'une exploitation agricole.
Personnellement, j'ai bien apprécié ces deux approches. J'aime bien ce genre d'outil d'évaluation objectif et j'ai l'impression que ça pourrait m'aider à mesurer la résilience de la ferme. C'est plutôt important pour moi parce que si je me projette vers cette activité, je veux le faire uniquement si l'agriculture que je mène, elle est résiliente et durable. Sinon, autant ne pas en faire, à mon avis.
De mon côté, j'ai ensuite participé à un cours de multiplication des plantes. On a par exemple revu des techniques de semis et plantation. C'est ce qu'on vous avait expliqué en mars, vous vous souvenez ? Donc planter, c'est mettre une plante en terre, et semer, c'est mettre une graine en terre. Je vous partage quelques points que j'ai retenus à ce sujet. En général, le terreau utilisé pour les mottes contient de la tourbe, que l'on trouve dans des tourbières. C'est une matière organique fossile formée grâce à une longue décomposition de matière, principalement de végétaux. C'est une ressource qui est lente à se renouveler, donc pour le maraîchage, il y a un enjeu de trouver d'autres alternatives dans les années à venir. On se demande aussi souvent à quelle profondeur semer une graine. Eh bien, on peut retenir que plus la graine est petite, plus elle doit être proche de la surface. Et dernier point que j'ai retenu à ce sujet, et que je voulais vous partager, la couche dans laquelle on sème la graine, que l'on appelle le lit de semence, doit être assez meuble pour que la graine puisse se développer et germer facilement. J'ai aussi vu une démo de marcottage, méthode dont j'avais entendu parler mais jamais vue. C'est plutôt pour les arbres et arbustes que pour les légumes. Le principe, c'est d'utiliser la capacité des cellules du cambium, du végétal, à se différencier, et donc les forcer à changer d'objectif. Le cambium, c'est une fine couche située entre le bois et l'écorce. Donc on va faire en sorte d'atteindre le cambium en coupant une partie de l'écorce et de donner l'information aux cellules qu'elles doivent faire des racines en leur mettant une poche de terreau.
Avec de la tourbe noire justement, qui garde bien l'humidité.
On leur donne donc l'information à ces cellules qu'elles doivent passer d'une fonction de tige à une fonction de racine. Puis, environ 2 mois après, on peut couper et avoir un nouveau végétal à mettre en terre avec des racines qui se sont développées.
On a également participé à un cours de diagnostic phytosanitaire.
Pour ma part, en maraîchage, on a vu pas mal de petites bêtes et de maladies qui peuvent être néfastes pour les cultures. Ça fait un peu peur, surtout qu'avec le changement climatique, de nouvelles problématiques apparaissent. Mais on a aussi vu des insectes qui sont appelés des auxiliaires, parce qu'ils sont des prédateurs de ces ravageurs. Par exemple, les pucerons sont des suceurs de sève qui vont affaiblir les végétaux, surtout s'ils sont nombreux, et les coccinelles qui se nourrissent de ces pucerons sont considérées comme des auxiliaires.
Et moi, en arbo, je suis sorti assommé de ce cours. C'était pour moi très bien et important de connaître les ravageurs, leur cycle, etc. Et je suis plutôt content que les intervenants ne nous laissent pas dans une posture naïve par rapport à la production de fruits. Par contre, j'étais ahuri du nombre de traitements qui sont faits historiquement dans l'agriculture chimique. Des traitements qui ne sont d'ailleurs pas toujours sélectifs. C'est-à-dire que ça tue plus largement que ce que l'on souhaite éliminer. En bio, il y a moins de molécules présentes qu'en conventionnel, ce qui emmène à utiliser plus souvent les mêmes choses et plus de cuivre.
Cuivre !
Et le cuivre, c'est une pollution durable du sol. La majorité d'entre nous qui achetons, on va vouloir acheter des fruits qui sont beaux, qui sont gros, qui sont brillants, qui sont lisses. Et c'est d'ailleurs sur ces critères-là que la plupart des fruits ont été sélectionnés, les fruits récents, pas par rapport aux résistances aux maladies, au goût ou aux qualités nutritionnelles. On est bête ou quoi, une sélection basée sur ces critères ? Pour moi, ça affaiblit forcément les populations de fruitiers et ça augmente les exigences en traitement phytosanitaire. En plus, les ravageurs développent des résistances, donc on traite plus pour essayer d'éliminer ces ravageurs qui ont développé des résistances.
Et ainsi de suite.
Et pour moi, ces pratiques, elles nous emmènent vraiment vers une pente dangereuse en termes de sécurité alimentaire et de bien-être des travailleurs, du vivant avec lequel on travaille dans ce milieu. Nous avons eu, heureusement, en fin de semaine, une ouverture vers des pratiques agroécologiques et toutes les choses qu'on peut mettre en place dans un système pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse.
Comme je disais, favoriser les auxiliaires, les insectes, les oiseaux prédateurs par exemple, mais aussi mettre en place des actions de prévention, aérer les arbres, tailler en enlevant les parties infectées, utiliser des produits à base de plantes qui boostent les défenses immunitaires de l'arbre, etc. Il y a des modèles très intéressants à voir du côté de l'Association française d'agroforesterie.
En bref, cette semaine m'a un peu dérouté. Plus je progresse et plus ça se complexifie, donc ça me fait poser énormément de questions sur la manière de garder un cap, ou en tout cas mon cap. Et ça m'a fait comprendre aussi qu'une agriculture biologique et durable exige des compétences techniques et des connaissances scientifiques très importantes. Je me suis dit aussi que la possibilité de réduire ou de se passer de traitement dépend beaucoup des circuits de commercialisation et des exigences des consommateurs.
Et comme à chaque semaine de regroupement à Angers, on a fait des visites de ferme. Pour ma part, c'était une ferme maraîchère de 12 hectares, en bio depuis 50 ans et dans la même famille depuis 3 générations. C'était très intéressant pour moi puisque c'est la plus grande ferme que j'ai visitée jusque-là et ils ont des canaux de distribution différents des fermes déjà visitées. Ils vendent principalement en gros ou semi-gros, notamment pour le marché de Rungis. Et ils ont une activité aussi de semencier, ça veut dire qu'ils vendent des graines. Pour finir le mois, retour à la ferme Sapousse en Essonne.
Au programme cette semaine, on a rencontré les deux nouveaux habitants de la ferme, Lumpa et Momo. Vous les entendez d'ailleurs dans le jingle ce mois-ci. Ce sont deux canards coureurs indiens. Ils sont encore tout petits, mais leur caractéristique, c'est d'avoir un long cou et ils ne volent pas. Ce sont des alliés en maraîchage car ils sont réputés pour manger les limaces. Et comme cette année est bien humide, il y en a de la limace. On espère donc que Lumpa et Momo vont réussir leur mission.
En plein champ, on a planté des tomates et des choux, et sous serre, des aubergines et des concombres. On a aussi passé pas mal de temps à désherber des rangs d'oignons, ail et échalotes. On s'arrête un instant sur le sujet du désherbage, parce que en jardinage comme en maraîchage, c'est une tâche récurrente, et un peu relou, il faut se le dire.
Oui, disons-le.
On a pu tester des outils, notamment la houe maraîchère, qui s'appelle aussi la binette à roues, et qui permet de passer sur le côté ou entre les rangs pour déraciner ou couper les mauvaises herbes.
C'est un outil constitué d'une lame affûtée, horizontale et de 10-15 cm. Cette lame, elle est portée par un cadre en forme de V, composé d'une roue avant et d'une sorte de guidon. On pousse donc le guidon, on racle la terre avec la lame qui vient couper les adventices. Franchement, c'est physique, ça chauffe les épaules.
La musculation à côté, c'est bidon.
Pour une belle musculature, mets-toi à l'agriculture.
Ça fait le plus gros du boulot, mais un autre passage entre les légumes peut se faire avec une binette oscillante. Bon, là, on voit pas vraiment comment vous la décrire. Regardez sur internet. Et puis, un dernier passage à la main, avec un bon couteau, peut permettre de venir à bout des dernières herbes.
Ah, un point lexique.
Vous entendez parfois parler d'adventices plutôt que de mauvaises herbes. C'est la même chose, mais le terme permet de remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas de mauvaises herbes en soi, juste des herbes qu'on ne veut pas et qui parfois peuvent concurrencer nos plantes cultivées.
Le jeudi, on a passé la journée au labo de transformation. Au menu, sirop de lavande et de cassis, confiture de rhubarbe et fraise rhubarbe. On a ainsi vu à l'action deux machines, un extracteur de jus et une raffineuse, qui séparent la pulpe et la peau. C'est venu rappeler et compléter nos cours de transformation. Maintenant, on a hâte de goûter. La semaine s'est clôturée avec la journée récolte et constitution des paniers. Car le vendredi soir, c'est la distribution aux adhérents. On leur a d'ailleurs tendu notre micro à l'occasion de la distribution.
Est-ce que tu peux dire pourquoi tu es engagée dans la MAP ?
Plein de choses qui viennent. Il y a le lien social, la fiabilité des produits, la qualité, le fait que ça permet aux agriculteurs d'être dans un système de résilience, d'entraide, respect de l'humain, respect de la terre, tout bénef, quoi.
Pouvoir rencontrer des gens, soutenir des producteurs, avoir des bons produits de la ferme, savoir comment ils sont produits. Voilà, ça nous apporte que du bonheur.
Je suis depuis le départ du projet de Sylvie et Florent et c'est pour ça que c'est la première association où j'allais. Et je me suis dit, bah, c'est pourquoi pas. Et c'est comme ça, puis maintenant je fais tout pour les aider plus eux. Voilà. Et puis le contact avec les gens, c'est sympa aussi.
Je viens à la MAP parce que c'est local, bio, et que ça correspond à ma façon de voir les choses et de voir comment ce monde doit fonctionner. Voilà.
Bah, je suis là parce que j'aime bien les légumes qui sont bio, et puis de rencontrer les gens aussi, ça fait du bien.
C'est un lieu de rencontre et d'échange hebdomadaire avec des gens qui partagent une bonne partie de nos idées sur l'environnement, sur l'écologie, sur la manière de consommer.
Je suis en AMAP depuis 10 ans parce que quand je me suis installée vers ici, je cherchais à des légumes meilleurs que ceux que je trouvais en supermarché. Ça nous a vraiment bien plu de pouvoir avoir des paniers toutes les semaines et surtout le côté rémunérer les paysans. En fait, pour nous, c'était important. Là, on revient dans une région où il n'y en aura probablement pas et en fait, on est hyper malheureux.
Déjà, c'est une autre manière d'avoir accès à la nourriture. Et puis, donc, on rencontre les producteurs. Il y a un aspect très convivial. Souvent, les gens y restent, on discute, on se connaît, on fait des fêtes dans l'année. L'aspect fraternité est important. Bien sûr, l'aspect aussi notre agriculture est possible. Donc, moi, je suis là-dedans pour toutes ces raisons-là.
Je suis vice-présidente depuis un an ou deux. Auparavant, j'étais secrétaire au bureau. Et sinon, je suis à Mapienne depuis 12 ans maintenant. C'est un investissement personnel parce que je crois au circuit court, aux produits bio et locaux, et je boycotte la grande distribution. Et la MAP, pour moi, c'est un bon modèle pour partager des choses, des moments et des émotions.
Je suis engagée dans la MAP depuis le début parce que je fais partie de ceux qui ont constitué la MAP ici à Pucé et les trois autres AMAP autour. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir des légumes de saison sur place et de soutenir des paysans.
Le concept, il y a à la fois les paniers, enfin les paniers, tous les produits bio, mais il y a celui derrière, toute la philosophie qui va avec. Le lien social, qu'est-ce qu'on crée ? On participe quand même à l'élaboration un peu de la ferme aussi. On est des consommateurs, de pouvoir participer, et puis dans une ambiance voilà, très conviviale.
Pour clôturer cet épisode, voici nos recommandations du mois, en plus de celles de Claire, Valentin et Éline. Pour moi, ce sera la chaîne YouTube de Nicolas Mérieux, un humoriste qui a fait un tour de France à la rencontre de fermes. Et en cherchant, vous pouvez trouver la vidéo qu'il a réalisée à la ferme Sapousse, justement.
Et pour ma part, les vidéos de Damien Decarce, de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. Je l'ai conseillé récemment à un ami qui veut avoir un terrain et j'ai replongé dans les vidéos. J'adore ses contenus, ça doit faire 5-6 ans que je les consulte. J'aime bien la façon dont il présente les choses à chaque fois, assez constructive, instructive et active.
Vous pouvez d'ailleurs en regarder une sur les canards coureurs indiens. Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Quentin, de la MJC Bobby Lapointe.
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Bifurcation pour avoir quelques images et être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. Envoyez un mail à bifurcationvf@proton.me. Mi, ça s'écrit M-E.
Voilà, vous savez tout ou presque sur notre mois de mai. En juin, je pourrai vous raconter mon stage à la ferme de Saute-Mouton qui fait du maraîchage et de l'accueil pédagogique près d'Orléans. Salut, salut!
À bientôt!